Merci d'être venus nombreux à la finale de notre premier concours du docteur entrepreneur. À mes côtés, Laurent Cotte, qui est président du directoire d'IT Translation, qui gère un fonds d'investissement qui a été créé en 2011 par CDC, par BPI France aujourd'hui, parce que c'est CDC Entreprises et l'INRIA, et qui dispose de 30 millions d'euros. Vous le savez peut-être, enfin je l'espère, parce que beaucoup d'entre vous sont des fidèles de cette manifestation, c'est la 7e édition des Rencontres Université-Entreprise, et donc depuis 6 ans, nous faisons énormément la promotion du doctorant et du docteur. Et c'est vrai que cette année, nous avons voulu aller plus loin. On a souvent les réflexions, vous savez, on en a beaucoup parlé à des conférences, là, les stéréotypes là, contre les docteurs, les doctorants, bon... Donc, on a voulu montrer que, effectivement, les docteurs et les doctorants étaient dans la réalité, pas du tout dans leur rêve de chercheur, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup de doctorants qui réfléchissaient également à l'application de leur thèse, et donc à transformer leur thèse en une bonne entreprise. Nous sommes là dans le registre de la preuve, et c'est ce que nous voulons prouver en permanence. Donc nous sommes très heureux de vous accueillir, et nous sommes fiers aussi de prouver que effectivement il y a beaucoup de docteurs entrepreneurs qui ont envie de se lancer dans cette aventure. Alors les critères que nous avons retenus. C'était une thèse en cours ou être docteur depuis moins de 3 ans. Ayant reçu une formation sur l'entrepreneuriat, mais bon, c'est un critère que nous avons un petit peu abandonné en cours de route parce qu'il y avait peu de dossiers qui correspondaient à ce critère. Nous avons été très souples aussi sur le critère du business plan. Il y en avait assez peu qui étaient réellement construits, donc on en a moins tenu compte. On sera peut-être plus rigoureux, plus difficile l'année prochaine. Et bien sûr, le caractère innovant du projet, le caractère entrepreneurial du projet et le besoin auquel il répondait. Et le positionnement sur le marché, bien sûr, qui ce sont des critères tout à fait opérants. Alors, nous avons été très contents parce que nous avons lancé cette initiative en janvier, après y avoir mûrement réfléchi. Et il y a une centaine de dossiers qui ont été retirés. On a reçu une soixantaine de dossiers vraiment construits. Et essentiellement dans 4 secteurs, biologie, santé, biotech, technologie de l'information, SHS, on était un petit peu étonnés, on a eu des bons dossiers en SHS, et puis énergie, environnement. On a reçu des dossiers de 48 universités, hein, donc et de toute la France, hein, pas seulement l'Île-de-France, de la France entière, et également de 9 écoles d'ingénieurs. À l'honneur, l'UPMC qui a déposé 6 dossiers, Lyon, les universités de Lyon qui en ont déposé 5, et Paris Sud et Montpellier également qui en ont déposé 4. Alors certaines universités se sont vraiment emparées de cette initiative et ont détecté dans leur université des doctorants. Et je dois dire que c'est pour ça qu'on a reçu aussi plus de dossiers de la part de ces universités. Nous avons sélectionné, donc ça a été un travail interne à AEF qui a pris énormément de temps. Nous avons sélectionné 25 dossiers qui ont été présentés, tous sur le site des Rencontres Université-Entreprise. Donc chacun d'entre vous s'informer sur le contenu de ces dossiers. L'équilibre des 4 grands secteurs dont j'ai parlé ont été à peu près respectés. Bon, c'était pas pour nous un critère, hein. On n'a pas décidé de faire 4 catégories cette année. Peut-être qu'après, si on reçoit plusieurs centaines de dossiers, nous ferons des catégories. Mais cette année, nous avions décidé de ne pas en faire. Et alors encore plus à l'honneur, c'est les universités et donc leurs étudiants qui ont été sélectionnés. Dans ces 25, on a conservé les 4 dossiers de Paris Sud, on a conservé les 3 dossiers de Paris Descartes, l'UVSQ, ils avaient déposé, je crois, 3 dossiers, on en a conservé 2, et Sophia Antipolis également, Nice, qui avait déposé 3 dossiers, on en a conservé 2. Sur les 25 dossiers, il y avait une majorité d'Île-de-France, 14 dossiers, et pour les régions, 11 dossiers. Un grand jury s'est réuni la semaine dernière, donc je vais... Voilà, le jury qui a été donc un jury, vous voyez le ministère de l'enseignement supérieur, VDCOM, qui est un organisme, Monsieur Adjane, qui est le directeur de la recherche et de la formation de VDCOM, le président d'Alcatel, Lucent Bels, un représentant de la Confédération des jeunes chercheurs, un représentant du CGI, Laurent Cotte, dont je viens de parler, Christophe Lecante, qui intervenait à la conférence précédente, qui venait au titre du comité Richelieu qu'il anime, en représentant d'entreprise EDF, le Conseil général d'Île-de-France, la Caisse des dépôts et la SAT Ouest Valorisation. Je pense que j'ai oublié personne. Alors, ce grand jury s'est réuni la semaine dernière, toute une après-midi, pour, à partir de ces 25 dossiers, en sélectionner 10. Les 10 ont été prévenus, et donc je pense que vous pouvez applaudir les 10 lauréats qui sont... Alors, c'est un peu stressant ce qu'on va vous demander, mais bon, vous le savez. On a proposé une séance de coaching qui a duré toute une journée vendredi dernier. Monsieur Cotte et Christophe Lecante se sont prêtés au jeu. Donc, toute la journée, ils ont été préparés à cette intervention. Vous allez monter successivement à la tribune. Vous avez exactement 3 minutes pour présenter vos dossiers, ce qui fera, avec les allers-retours, les descentes et les remontées, peut-être 35-40 minutes. Mais c'est vrai. Alors, nous avons un prompteur électronique qui ne sonne pas au bout des 3 minutes, mais que je vais voir et que vous allez voir. Et donc, si vous n'avez pas terminé au bout des 3 minutes, ben, nous arrêterons. C'est la règle du jeu. Mais je pense que vous avez été suffisamment préparé et formé à répondre à ce type d'exercice, bon, qui, je le reconnais, est très stressant, mais vous avez une assemblée aussi qui est très bienveillante à votre égard et qui est ravie d'être parmi nous pour rencontrer ces docteurs entrepreneurs. Et moi, je suis très très fière, parce que quand j'ai commencé à parler de nos initiatives dans les milieux privés de la recherche, j'ai quand même plusieurs patrons R&D qui m'ont dit: oh là là, mais vous n'aurez pas de dossier. Eh bien si, on a eu beaucoup de dossiers et des dossiers très intéressants. Donc aujourd'hui, vous remplissez ce rôle de valoriser la fonction de doctorant et de docteur, et je vous en remercie déjà à ce titre. Alors nous avons déterminé, alors ça c'est par tirage au sort que nous avons déterminé cet ordre. Donc vous allez voir en chair et en os, c'est 10 personnes. Nous allons appeler d'abord Armistance, le dossier Armistance. Chacun connaît son ordre. Allez-y, vous montez. Donc, Sami Mohamed et...
Mohamed.
Pardon. Et vous voyez là le prompteur qui est là. Fatima, je vous présente Fatima Enich, qui a été à l'initiative de ce projet et qui vient d'y travailler pendant plus d'un mois, je pense samedi et dimanche inclus. Donc c'est un peu son bébé, et je pense aussi qu'on peut la remercier, que ça a été un gros, gros travail pour elle. Alors, la solution de mobilité pour fauteuil roulant.
Merci. Bonjour à tous. Quand on est handicapé, qu'est-ce que ça veut dire? Soit on a un fauteuil manuel, si on a assez de force dans ses bras, et sinon, on a un fauteuil tout électrique. Malheureusement, ces solutions ne répondent pas à l'ensemble des exigences de l'utilisateur. Ils ne permettent pas de s'adapter à l'environnement, intérieur, extérieur, descente, pente et franchissement des obstacles avant tout. Ils ne permettent pas de s'adapter à l'état de forme physique de l'utilisateur et ils ne suivent pas l'évolution de sa pathologie et le tout en toute sécurité. Quelle est la solution? Et il faut savoir, bien sûr, que ce problème concerne 3 millions d'Européens qui passent 80% de leur temps en fauteuil roulant. Quelle est la solution? On a inventé Armistance, ou en anglais Arm Assistance, qui est un dispositif d'aide à la mobilité qui s'adapte sur tout fauteuil roulant manuel et qui permet à l'utilisateur de choisir du mode manuel jusqu'au tout électrique en toute souplesse, grâce à son système de motorisation intelligent qui s'appuie sur des technologies innovantes qui sont couvertes par 3 brevets en cours de dépôt par le CNRS. Avec Armistance, on peut enfin franchir des obstacles. Armistance s'adapte à l'état de forme de son utilisateur et suit la pathologie de l'utilisateur et le tout en toute sécurité. Armistance, c'est le choix de la liberté. Quelques chiffres du marché. Aujourd'hui, un fauteuil roulant manuel coûte environ 1 000 euros remboursé entièrement par l'assurance maladie. Un bon fauteuil électrique coûte près de 10 000 euros remboursé 5 000 euros. On peut toujours faire un cocktail de dispositifs d'aide à la mobilité. Les prix vont grimper très vite. La sécurité sociale doit rembourser au moins 5 000 euros. Et pour le franchissement des obstacles, on n'a pas vraiment une solution à prix abordable. Et la liberté. Quel est le prix de la liberté ? Pour une personne en fauteuil roulant, quel est le prix de pouvoir choisir sa mobilité ? Eh bien, avec Armistance, on n'a plus à choisir. Pour moins de 6 000 euros, on répond aux attentes du marché et on fait faire des économies énormes à la sécurité sociale sur les 360 000 Français concernés. Eh bien, en deux mots, Armistance, c'est le choix de la liberté de choisir sa mobilité. Ce projet a déjà séduit le jury national à la création d'entreprises innovantes, BPI France, et grâce aux 35 000 euros de subventions qu'on a gagnées, on a pu construire un prototype et une preuve de concept à 80%. Et le lancement commercial est prévu pour le premier semestre de 2015, après la création de la start-up à la fin de cette année. Je vous remercie pour votre écoute.
Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter l'entreprise Acubans et j'ai 3 minutes pour vous convaincre de l'immense potentiel de cette start-up de biotechnologie. Qu'en est-il de la sécurité des personnes face au nucléaire ? Les accidents d'irradiation peuvent se produire dans différentes circonstances. Citons tout d'abord le travail, puisque 355 000 personnes en France travaillent à proximité de sources nucléaires. D'autre part, le nucléaire est utilisé en médecine ou dans la recherche. Et citons également des cas plus dramatiques, mais heureusement très rares, d'accidents de centrales, comme la centrale de Tchernobyl en 1986 ou Fukushima en 2011. Des attaques terroristes peuvent également utiliser du nucléaire. Donc, en cas d'accident d'irradiation, il convient de diagnostiquer les personnes pour déterminer la dose qui a été reçue et ainsi adapter le traitement. Actuellement, quelles sont les solutions pour réaliser ce diagnostic ? Ce diagnostic est réalisé en laboratoire d'analyse. Donc, cette analyse dure 24 à 48 heures. Elle n'est pas réalisable sur le terrain. Le diagnostic d'une irradiation localisée, donc d'un membre par exemple, est impossible. Et c'est une méthode invasive avec un coût élevé. Face à ces obstacles, notre solution s'appelle DosiKit. Le DosiKit permettra de réduire la durée d'analyse à 30 minutes, d'effectuer une analyse sur le terrain. Il permettra un diagnostic d'une irradiation localisée. Il s'agit d'une méthode non invasive et qui présente un coût réduit puisque nous diviserons les coûts d'un facteur 10. Le DosiKit se présentera sous la forme d'une mallette, donc avec une partie matériel d'analyse et une partie kit individuel. Les kits individuels seront à renouveler tous les 2 ans. Le DosiKit pourra être stocké sur les lieux où il sera utilisé, donc par les utilisateurs. Et justement, quels sont ces utilisateurs ? Autrement dit, quels sont nos clients ? Avec le DosiKit qui sera prêt fin 2014, nous pourrons aborder les opérateurs privés en France et à l'international, donc du nucléaire, et des opérateurs publics tels que l'armée et la sécurité civile, qui interviennent en cas d'accident grave d'irradiation. D'autre part, nous préparons une seconde version du DosiKit qui s'appellera DosiKit Plus, qui sera prête fin 2015 avec une sensibilité améliorée, qui nous permettra d'aborder les marchés de l'incident et du suivi des travailleurs, donc avec les assurances, les laboratoires, la médecine, la recherche et les hôpitaux. L'équipe Acubans est pertinente pour ce projet puisqu'elle se compose de 2 docteurs spécialistes des technologies évoquées, ainsi que de 2 businessmen expérimentés. Et nous sommes également partenaires avec un laboratoire du CEA. Je vous remercie pour votre attention.
Bonjour, Xavier Duporté, encore docteur en biologie de synthèse mammifère, et je suis là pour vous présenter le projet PhageX. Aujourd'hui, on est face à un vrai problème, c'est l'augmentation fulgurante des bactéries résistantes aux antibiotiques. Aujourd'hui, rien qu'aux US, ces bactéries résistantes sont la cause de plus de 2 millions d'infections, la cause de plus de 23 000 décès, et elles coûtent des dizaines de milliards de dollars en dépenses associées. On a besoin de vraies alternatives thérapeutiques aux antibiotiques qui sont la cause justement de ces résistances. Nous avons développé les oligobiotiques. En fait, c'est une alternative, c'est une thérapie qui permet un traitement ciblé des bactéries et efficaces, qu'elles soient résistantes ou non résistantes aux antibiotiques. Comment elles marchent ? Elles marchent tout simplement, donc on a programmé un vecteur biologique qui nous permet d'injecter dans les bactéries de notre choix un circuit génétique. Ce circuit génétique va coder pour des protéines et un ARN qui vont scanner l'ADN de la bactérie. Et si ce petit circuit découvre la séquence qu'on vise, qu'on cible dans la bactérie, par exemple un gène de résistance, eh bien cela va provoquer le découpage du chromosome bactérien et la mort très efficace de la bactérie. Notre premier produit, pour lequel on a déjà eu des preuves de concept en laboratoire, nous cherchons à attaquer les staphylococcus dorés, résistants. Encore une fois, c'est des chiffres aux États-Unis. Les staphs dorés sont responsables de 11 000 décès par an aux États-Unis. Et la taille du marché est d'1,2 milliard et ne cesse d'augmenter pour atteindre 1,8 milliard en 2017. Aujourd'hui, notre produit, qu'on a développé et testé en laboratoire sur des souris, donc in vivo, il a une efficacité de 99,99% contre les staphylococcus dorés. Et ce qu'on peut voir sur la courbe, donc la courbe rouge montre que les staphs dorés, en effet, quand on applique notre produit, sont réduits à néant. Et ce qui est très intéressant avec notre produit, c'est comme on a une intervention ciblée sur le microbiome, la ligne verte montre le pourcentage d'autres bactéries qui restent vivantes sur les souris. Par rapport à la concurrence et aux antibiotiques, aujourd'hui les antibiotiques deviennent inefficaces contre les bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, alors que notre produit peut cibler ces bactéries. Les antibiotiques sont non spécifiques et détruisent toute notre flore microbienne, alors que notre produit, les oligobiotiques, ciblent seulement les bactéries néfastes, pathogènes. La découverte de nouveaux antibiotiques est très coûteuse et très complexe. Aujourd'hui, notre système, comme il est à base d'ARN, on peut le reprogrammer très rapidement et développer des produits contre beaucoup de bactéries et différentes résistances. Grâce au concours, donc on a été primé hier au concours mondial de l'innovation de la commission Innovation 2030, ça va nous permettre d'accélérer et de mettre de l'eau dans le moulin au projet. On est en train de préparer une incubation à Pasteur. On a un premier produit qui est en train de se développer, donc justement sur Staph aureus, où on en est au stade de la formulation. D'autres produits avec les laboratoires partenaires MIT et au Rockefeller pour E. coli, les E. coli pathogènes. Une deuxième levée de fonds en 2014 pour ensuite entamer les essais précliniques. Comme on est basé sur une technologie de rupture, notre but est de devenir une plateforme technologique.
Ok, donc bonjour à tous. Donc je vais vous exposer justement mon projet de création de start-up de biotechnologie visant à l'utilisation des organismes les plus productifs de notre planète, que sont les bactéries, pour générer des molécules pouvant avoir un intérêt dans le secteur industriel. Dans le cadre de ma thèse, je me suis intéressé aux polymères produits par les bactéries. Polymères qui trouvent différents secteurs de valorisation tels que la cosmétique, le pharmaceutique, le médical, la santé, le packaging ou encore le secteur de l'agriculture. Pour concernant les axes privilégiés pour la valorisation de ces molécules-là, j'ai choisi le secteur de la cosmétique parce que d'une part, il présente un fort taux de croissance de l'ordre de 10% par an. Et également, au niveau de la cosmétique, les polymères sont estimés sur un marché d'à peu près 43 milliards de dollars. Donc, comme solution innovante, ce que je propose avec ce concept, c'est l'utilisation de bactéries uniques au territoire néo-calédonien, donc on parle de bactéries endémiques, et l'utilisation des outils modernes de la biotechnologie pour générer de nouvelles molécules qui sont vraiment spécifiques des organismes producteurs et sont hautement valorisables. Ainsi, en termes de problématiques que l'on a identifiées pour les différents pour l'industrie ciblée, à savoir la cosmétique, il s'agit d'un secteur qui est en perpétuelle recherche de nouvelles molécules et il y a certaines difficultés pour les trouver et également des difficultés pour obtenir de nouvelles molécules. En effet, certains polymères peuvent être produits par des organismes végétaux ou animaux, mais il y a des difficultés quant aux problèmes de purification, ce genre de choses, et qui sont soumis également aux aléas climatiques ou au contexte géopolitique. Donc tout ça a une influence sur le prix, et il y a également le facteur des législations qui sont un facteur limitant, notamment l'introduction de nouvelles molécules sur le marché issues de la synthèse ou de l'hémisynthèse. Ainsi, les atouts du projet sont d'une part une production à des prix compétitifs, la possibilité d'avoir un turnover rapide quant à notre procédé de fabrication, une grande fiabilité de production, les méthodes de purification de ces molécules sont non polluantes et on a en effet des molécules qui sont complètement naturelles et qui échappent aux législations imposées aux entreprises cosmétiques. Donc pour terminer, je vais finir avec ce facteur innovant de l'entreprise et non pas d'exploiter le milieu marin, mais au contraire de s'inspirer de ce qui existe dans le vivant pour apporter des solutions innovantes aux entreprises. Et je vais finir par cette citation de David Perlman sur les lois de la microbiologie appliquée et qui affiche les micro-organismes comme des partenaires qui sont capables de produire un grand nombre de choses à condition de leur donner le potentiel de le faire. Et ce sont des organismes, comme je le disais avant, qui sont les plus productifs de notre planète. Et si on prend soin d'eux, ils prendront soin de nous. Et génération à venir. Merci.
Merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et à tous. En quelques mots, le projet Mat & Part concerne la conception et la production de matériaux et de particules dont il est possible de contrôler à la fois l'architecture, mais également la fonction de surface. Dans les 3 minutes qui me sont accordées aujourd'hui, je vais m'attacher à vous présenter la technologie phare de ce projet, à savoir l'élaboration de particules dissymétriques. Alors, donc des particules qui ont disposent de 2 fonctions différentes à chaque extrémité. Et elles sont appelées particules Janus en référence aux dieux romains possédant 2 visages. Alors, ces particules sont généralement de taille micrométrique, c'est-à-dire environ 10 000 fois plus petites qu'un grain de riz. Et jusqu'à présent, leur synthèse était réalisée selon une méthode par immobilisation, qui, il faut bien l'avouer, est à peu près aussi efficace que de faire cuire des grains de riz un par un. L'originalité de notre projet, c'est d'utiliser l'électrochimie bipolaire qui consiste à soumettre ces particules à un champ électrique pour les dissymétriser. Alors cette technologie innovante présente l'immense avantage de permettre la synthèse de grandes quantités d'objets à la fois, et même mieux puisque récemment elle a permis le développement d'un réacteur en mode semi-continu pouvant être adapté à une échelle industrielle. Alors autre avantage de cette technologie, c'est qu'elle permet de fabriquer une grande variété d'objets différents puisqu'il est possible de déposer à leur surface à peu près n'importe quel type de substrat, que ce soit des métaux, des polymères organiques ou conducteurs, des encres ou encore des semi-conducteurs. Et puisque ces objets sont d'une grande variété, ils intéressent les industriels de nombreux secteurs et une étude de marché a permis d'en identifier 4 prioritaires, à savoir la catalyse, la cosmétique, l'électronique et la médecine. Et mon objectif actuellement et d'associer précisément chacun de ces types d'objets à l'application correspondante. Et c'est pour cette raison que j'ai cofondé, il y a quelques mois maintenant, une cellule de transfert technologique dénommée Brivatech, située sur le campus de Bordeaux. Et étant donné que des contacts sont d'ores et déjà établis avec des industriels de groupes d'envergure mondiale, j'ai bon espoir que cette structure sera suffisamment mature d'ici 1 à 3 ans pour devenir la start-up Mat & Part. Alors, puisque 3 minutes, c'est un peu court pour tout dire, je vous invite pour terminer à utiliser votre smartphone pour flasher ce QR code afin de visionner la vidéo qui a été réalisée dans le but de promouvoir cette technologie ou bien, plus simplement, de consulter le site janusparticles.com. Et je vous remercie, bien sûr, pour votre attention.
Très bien. Les réseaux sociaux sont une formidable plateforme de diffusion d'informations et de partage de contenu numérique. Cependant, il y a 3 problèmes qui se posent dans ces types de réseaux. Premièrement, il y a tout simplement trop d'informations dans ces réseaux. Aujourd'hui, pour un utilisateur lambda de Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux, c'est 54 000 mots d'informations qui lui arrivent tous les jours. 54 000 mots, pour vous rendre compte, c'est l'équivalent d'un roman. C'est beaucoup trop. Deuxième problème, toutes les interactions se font via des profils dont il est difficile de vérifier l'authenticité. Cela pose un problème de confiance dans l'origine des contenus en ligne. Et troisième problème, et c'est peut-être le plus inquiétant, alors que la promesse de ces réseaux sociaux, c'est de créer du lien entre les individus, finalement, leur fonctionnement fait que les utilisateurs sont plus concentrés à faire leur autopromotion et pas à créer du vrai lien entre eux. Donc, pour répondre à ces problèmes, nous développons Spread, une application mobile gratuite qui permet de partager le contenu que l'on aime aux gens qu'on rencontre. Le principe, c'est d'adapter le mécanisme bien connu du bouche à oreille aux moyens de communication modernes, grâce aux technologies QR et NFC. Donc ça marche de la manière suivante. Voici un utilisateur en violet qui est heureux parce qu'il a un contenu qu'il aime. Il rencontre quelqu'un d'autre dans la vraie vie et il va recommander ce contenu à cette autre personne. L'échange se fait en vrai, et à la fin, les deux personnes sont heureuses parce qu'elles ont toutes les deux le contenu. Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu d'une part un échange de qualité inégalée, parce que la personne qui reçoit le contenu est forcément attentive, contrairement aux 54 000 mots sur Facebook. Deuxième point, elle a confiance dans l'origine du contenu, puisqu'elle voit son interlocuteur directement. Et enfin, troisième point, on a eu une vraie interaction humaine, pas quelque chose par écran interposé. Et ce qui est fort avec Spread, c'est qu'en plus, on peut créer des mécanismes innovants de communication par le bouche à oreille. Prenons l'exemple du lancement du dernier album de Daft Punk. Ça, c'est une affiche dans le métro. Et sur cette affiche, il y a un code QR mystérieux. Un utilisateur de smartphone un peu curieux va scanner avec son téléphone. Et lorsqu'il fait ceci, il récupère sur son téléphone un contenu associé à Daft Punk. Et sur ce contenu, on voit qu'il y a trois morceaux. Mais pour l'instant, il ne peut pas les écouter. S'il veut les écouter, il doit se transformer en ambassadeur de Daft Punk. Et à son tour, il doit recommander et partager le contenu à d'autres utilisateurs. Et plus il partage, plus il va avoir accès à des morceaux, des nouveaux morceaux. Et bien sûr, il peut tout le temps acheter l'album complet en ligne. Ça, ce principe d'évolution du contenu au fur et à mesure qu'il est dit partagé dans le réseau, c'est quelque chose pour lequel on a déposé un brevet. Donc vous l'aurez compris, nos cibles sont les agences de communication à qui nous proposons de faire des campagnes de communication innovantes dans notre réseau, avec un coût forfaitaire pour la création de contenu évolutif et l'accès aux statistiques de diffusion, et un coût récurrent, de la même manière qu'on a des coûts par clic sur le web, nous on a un coût par partage dans la vie réelle. Enfin, nous comptons lancer l'application le mois prochain et accompagner ce lancement par un plan de communication qui comprend une présence dans les blogs spécialisés et la presse grand public, une campagne d'affichage avec des contenus évolutifs, et enfin la rédaction d'un livre blanc sur le bouche à oreille pour les campagnes de communication. Je vous remercie de votre attention.
Bonjour. Donc, je vais vous présenter mon projet de technologie de réfrigération électrocalorique innovant. Alors, pour situer un petit peu le contexte, donc vous savez qu'aujourd'hui, l'électronique est omniprésent et de manière plus générale, tout ce qui est système embarqué. Donc, que ce soit dans les smartphones, dans les ordinateurs portables, dans les avions, dans les satellites, dans les voitures, on est bardé de systèmes embarqués. Or, ces systèmes embarqués contiennent de l'électronique qui est de plus en plus puissante, des circuits électroniques qui contiennent de plus en plus de transistors, et c'est tout ça comme chaleur à évacuer. Or, donc ce marché qui est en pleine croissance, le marché des systèmes de régulation thermique pèse près de 12 milliards de dollars par an avec une croissance de 12% par an et se trouve au niveau d'un seuil technologique. Si on regarde la technologie de réfrigération actuelle, c'est une technologie qui est vieille de près de 2 siècles, d'accord, et qui se base sur le principe de la circulation d'un fluide avec un changement de phase. Donc c'est une technologie qui est très robuste, certes, mais c'est une technologie qui est à la fois polluante et qui est très difficilement miniaturisable. Polluante parce qu'elle libère des gaz à effet de serre et très miniaturisable parce qu'elle demande tout un panel donc de tuyauterie, de différents moteurs qui font qu'il est extrêmement difficile de miniaturiser ça et donc de rendre ce genre de technologie compatible avec la réfrigération ou la dissipation thermique dans les systèmes embarqués. On a développé au laboratoire SPMS une technologie donc de rupture qu'on appelle la technologie électrocalorique. Donc dans cette technologie, pour faire très simple, vous avez un matériau qu'on appelle un diélectrique auquel on soumet un champ électrique. Lorsque l'on coupe le champ électrique, le diélectrique refroidit brutalement et donc tout ce qui est en contact avec ce diélectrique refroidit par la même. Donc c'est une technologie qui permet d'avoir un refroidissement qui est à la fois passif, très propre et surtout miniaturisable, donc parfaitement compatible avec les systèmes embarqués. Donc nous souhaitons valoriser cette technologie à travers l'octroi de licences donc pour les industriels qui seraient intéressés. Alors évidemment, on compte pas s'arrêter donc au développement pour le système au marché du système embarqué. C'est une technologie qui pourra dans les mois et années à venir être déployée dans d'autres systèmes de réfrigération et en particulier dans la réfrigération domestique pour que peut-être que le réfrigérateur que vous achèterez demain sera un réfrigérateur électrocalorique. Voilà, merci de votre attention.
Donc bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier l'AEF de me donner l'opportunité de vous présenter mon projet de création d'entreprise, Bioma, dont je serai le cofondateur et le président. Donc Bioma, c'est une spin-off, une start-up qui est issue de l'IRSTEA, Institut de Recherche Publique Référent dans le domaine de l'environnement, au sein duquel j'ai fait mon doctorat. Donc, comme vous le savez, nos rivières et nos fleuves sont contaminés et sont pollués de par les activités humaines, que ce soit l'agriculture, l'industrie ou encore l'urbanisation. Et ces activités émettent un grand nombre de substances polluantes dans l'environnement. Donc, dans ce contexte, la loi impose en fait des obligations de résultat aux gestionnaires publics et aux industriels pour limiter les émissions polluantes, améliorer la qualité de l'eau et préserver la biodiversité. Donc aujourd'hui, quand on regarde les outils disponibles, c'est principalement des analyses d'eau qui permettent difficilement de doser les polluants dans l'eau et qui ne renseignent pas sur la toxicité de ces polluants sur les organismes aquatiques. Donc dans ce contexte, Bioma propose aujourd'hui les premiers outils biologiques qui vont permettre d'évaluer la contamination chimique et la toxicité, ceci via l'utilisation d'une espèce de crevette sentinelle qu'on appelle le gamma, que l'on va exposer directement dans le milieu. Donc notre offre de prestation de services qui s'adresse aux acteurs de l'eau est basée sur un ensemble de savoir-faire innovants et brevetés que sont la sélection et la standardisation de gamma, une technique d'exposition en conditions réelles, c'est-à-dire via l'encagement de gamma directement dans le milieu pendant 7 à 21 jours, des méthodes de dosage pour doser les contaminants bioaccumulés dans les organismes, des marqueurs de toxicité qui vont évaluer les effets toxiques chez ces organismes, et enfin des modèles mathématiques qui vont nous permettre d'interpréter de façon fiable les résultats. Donc au final, le rapport d'analyse que nous remettons aux acteurs de l'eau va permettre de classer et de prioriser les sites en fonction de leur niveau de contamination chimique et de toxicité, et de suivre leur évolution dans le temps. Donc en termes de chronologie, la genèse du projet, c'est entre 2005 et 2012, où deux chercheurs de l'IRSTEA, Olivier Geffard et Arnaud Chaumeau, ont développé et ont mis au point ces outils. Et dès 2008, moi j'ai eu l'opportunité d'intégrer leur équipe pour faire mon doctorat et aujourd'hui pour créer Bioma. Donc le projet est entré en 2013 avec l'appui de l'IRSTEA en incubation chez l'incubateur Créalis à Lyon et a été lauréat du concours BPI dans la catégorie émergence. Et durant une année, en fait, on a validé la pertinence de nos offres auprès des acteurs de l'eau, donc privés et publics, ce qui m'a permis de construire mon business plan. Donc nous avons également constitué l'équipe, donc nous sommes 4 cofondateurs, les 2 chercheurs de l'ISTA, Laurent Viviani, un business developer qui nous a rejoint il y a 6 mois, et moi-même. Nous sommes en passe de signer nos premiers contrats et en parallèle, j'ai construit un programme d'innovation qui a fait l'objet d'un dépôt de candidature au concours de la BPI France dans la catégorie création et développement. Donc, la création de la société est prévue pour le mois d'avril et mon objectif et ma vision pour mon entreprise, c'est de devenir leader dans la biosurveillance de la pollution des milieux aquatiques. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'en profite également pour remercier l'ensemble des partenaires qui soutiennent le projet. Merci.
Bon, qui parmi nous n'a jamais rêvé de la machine à faire apprendre sans effort ? Bah aujourd'hui, grâce au produit de Païda, c'est possible. Imaginez, vous venez d'acheter un jeu vidéo, et mes animations ne marchent pas, et quand vous lancez le jeu vidéo, on vous demande de prendre une photo de vous-même, et vous êtes aspiré dans un vortex interdimensionnel. Vous arrivez sur un monde où, visiblement, tout le monde est franchement idiot, et ce monde a l'air d'être chargé d'une histoire à faire frémir d'excitation les plus grands romanciers. Pour pouvoir vous en sortir, vous allez devoir naviguer dans ce monde en utilisant un gameplay innovant combinant les technologies tactiles, gyroscopiques et aussi les capacités de réalité augmentée liées aux 2 caméras de votre périphérique. Par exemple, si vous vous retrouvez en face de cette énigme, il faudra simplement allumer la caméra et passer votre point devant pour pouvoir mettre le peuple dans l'ombre et laisser les érudits dans la lumière. Donc, bien évidemment, les énigmes vont se complexifier au cours du jeu et nous aborderons des thèmes allant des phénomènes de l'ombre jusqu'à la création de la lumière au niveau subatomique. Alors, ce qui fait que les produits de Païda sont vraiment innovants et révolutionnaires, c'est la possibilité qu'offrent les sciences cognitives d'adapter la difficulté en fonction du profil du joueur, en manipulant son attention et l'environnement, ce qui va faire en sorte que le joueur qui bute va être aidé sans s'en rendre compte et va se positionner constamment en tant qu'acteur de son apprentissage. Deuxièmement, ça va pouvoir nous permettre de répondre à la satisfaction d'un grand nombre de profils de joueurs, des pré-ados, des ados et des adultes, et ainsi pouvoir permettre de toucher différentes cibles sur les marchés. Deuxièmement, on va pouvoir avoir un contrôle de l'apprentissage puisque dans le jeu, on peut voir les courbes de progression sur les différents thèmes, ce qui en fait un outil unique et qualitatif d'apprentissage. Donc nos marchés sont ceux des tablettes et des smartphones, avec la possibilité de s'étendre sur sur les marchés des consoles de salon disposant des possibilités de réalité augmentée. Donc, si vous voulez que demain, vos enfants, vos petits-enfants, et même peut-être vous, puissiez jouer à des jeux vidéo vous laissant plus que la satisfaction d'avoir passé votre temps, aidez-nous à bâtir un futur où le divertissement n'est pas un antonyme d'apprentissage.
Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais vous parler un petit peu de la précision des programmes informatiques. Parce que contrairement à ce que vous pensez, tous vos ordinateurs, ils ne savent pas vraiment calculer, en fait, quoi. Et j'en veux pour preuve qu'au fil de l'histoire, il y a eu plusieurs catastrophes industrielles qui ont été causées directement par des erreurs numériques de calcul faites par les ordinateurs. Que ce soit l'échec de l'interception d'un missile ennemi en 91, que ce soit une plateforme pétrolière qui s'effondre et qui coule en mer du Nord à peine installée, ou que ce soit la fameuse explosion d'Ariane 5 à son premier envol. Dans ces trois histoires, ce qui a péché, c'est l'électronique qu'il y avait derrière et les calculs qu'ont fait les ordinateurs qui étaient embarqués dans ces systèmes. Donc évidemment, on a envie de se dire, on veut empêcher ces catastrophes de se reproduire. Et pour ça, il faut savoir faire deux choses. Déjà, il faut savoir les détecter. Savoir dire, est-ce que mon ordinateur calcule juste ? Donc il faut savoir mesurer la précision des calculs faits par mon ordinateur. Ensuite, si la précision est insuffisante, il faut savoir la corriger. Et donc pour ça, il faut savoir optimiser la manière dont écrit mon programme pour qu'il calcule mieux qu'avant. Et c'est exactement cette solution-là que nous proposons aux industriels. C'est une solution tout en main où nous permettons à la fois de mesurer et d'optimiser les programmes et le tout automatiquement. Et c'est là la grande innovation, c'est qu'on va pouvoir remplacer tous les process manuels et empiriques qui ont lieu aujourd'hui dans l'industrie pour faire cette optimisation. Donc évidemment, on va faire gagner du temps aux ingénieurs avec un outil automatique. On va pouvoir faire gagner une économie d'échelle aux entreprises puisqu'on va avoir un outil tout en un plutôt que plusieurs outils qui vont remplir chacun une tâche. Et surtout, on va leur permettre d'avoir une meilleure maîtrise du risque que les ingénieurs induisent lorsqu'ils conçoivent les programmes qu'ils vont embarquer. Et en effet, c'est bien pour les ingénieurs que notre produit s'adresse. Donc des ingénieurs qui font quoi ? C'est les ingénieurs qui vont fabriquer le programme de vol du prochain avion dans lequel vous allez monter, ou bien le prochain programme de vol de la prochaine fusée, ou bien des ingénieurs qui vont faire des logiciels de simulation qui vont permettre à l'industrie de savoir est-ce qu'il y a du pétrole, est-ce qu'il y a de l'eau, est-ce qu'il y a des ressources minérales là où j'ai fait mes prélèvements, ou bien de savoir est-ce que le pont va réussir à tenir la prochaine tempête, est-ce que la simulation va me valider mon modèle structurel de mon pont, ou bien est-ce que le mix énergétique va être suffisant pour permettre d'avoir du 220 volts dans votre prise, quoi. Alors comment les ingénieurs vont utiliser notre solution ? Eh bien, c'est très simple, nous proposons deux choix, soit une intégration sous forme de plugin directement dans les environnements de développement de ces ingénieurs, soit sous forme de librairies qui peuvent inclure, des librairies qui contiennent des fonctions déjà optimisées, déjà validées, qu'ils n'ont plus qu'à inclure et utiliser sur besoin. Alors comment on va arriver à faire tout ça ? Eh bien, nous, on se repose sur une technologie de partenariat avec différents partenaires industriels, notamment du domaine de l'aéronautique et de la finance. Et je vous remercie de votre attention.
Merci à nos 10 finalistes. Les projets ont tous été tout à fait passionnants. Alors que se passe-t-il maintenant ? Notre jury est au premier rang. Je salue d'ailleurs Hervé Sutik, le directeur de l'innovation de Veolia, de nous avoir rejoints. Ils sont en train donc de revoter, si je puis dire, parce que nous avions fait, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais je vous le dis maintenant, nous avons fait une sélection parmi les 10 la semaine dernière dans notre jury, en remettant complètement à plat cette sélection en fonction de vos présentations orales. Par ailleurs, nous incitons l'ensemble du public également à voter. Alors, est-ce que vous vous êtes tous branchés sur le Wi-Fi du salon ? Donc, c'est rue 2014. Le jury professionnel a trois choix, puisqu'il y aura un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Le public a un seul choix. Donc, vous branchez. C'est très simple d'utilisation. Vous avez donc rentré rue-aef.com/docteur dans votre navigateur. Vous tapez cette adresse dans votre barre URL. Vous choisissez votre projet préféré. Et vous enregistrez votre réponse. Alors, je redis l'adresse. www.ru-aef.com/docteur avec un S à docteur. Est-ce que vous arrivez? Alors, nous avons fait des essais, de multiples essais. Nous avons fait des essais en live ce matin. Ça fonctionnait. Le Wi-Fi est parfois un peu faible, hein, donc peut-être que tout le monde n'arrivera pas à se brancher. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça... Oui, il y a un certain nombre de personnes qui me disent oui. Je ne sais pas si les compétiteurs ont le droit de voter pour eux. Mais c'est fait exprès. Non, non, mais justement, c'est fait exprès. C'est fait tout à fait exprès. Nous sommes très à la pointe. Informatiquement, vous ne pouvez pas voter pour vous-même. Ce n'est pas possible. Donc, nous vous donnons 10 minutes. Nous donnons 10 minutes également à notre jury. Pendant que vous réfléchissez, je vais appeler Claude Girard du CGI s'il a terminé de faire son choix. Alors, Claude peut monter sur scène. Ah oui, d'accord. Ah, j'accueille. Pardon, Isabelle, je ne vous avais pas vu. J'accueille Isabelle Tisse-Saint-Jean, qui est VP au Conseil régional d'Île-de-France, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui va remettre les trophées et les prix à nos lauréats. Isabelle, malheureusement, avait un cours ce matin à Villetaneuse. Elle a tout fait pour être à l'heure. Elle est même un petit peu, elle a 5 minutes d'avance par rapport à l'horaire prévu. Donc, Claude Girard du CGI. Alors, pourquoi le CGI a-t-il décidé de participer à ce concours?
Avant de répondre à la question pourquoi le CGI, je voudrais dire, d'abord, je voudrais remercier l'AEF parce que pour moi, à titre personnel et très égoïstement, ça a été un plaisir de participer à ce jury. Parce que on brasse souvent des concepts sur l'innovation, sur la recherche, l'articulation avec le monde industriel. Et là, il a fallu d'abord travailler les dossiers. Mais le retour sur investissement d'avoir travaillé ces dossiers, c'est d'avoir pu voir ce matin de la recherche dynamique in vivo, j'ai envie de dire, avec des présentations qui étaient de très bonne qualité et des dossiers de très bonne qualité. Donc pour moi, ça a été un vrai plaisir et je remercie les candidats de leur présentation. Alors pour le CJ, je rappelle que c'est l'instance au niveau de l'État qui gère le programme des investissements d'avenir, les d'abord 35 milliards qui avaient été confiés au CJ pour faire de l'investissement sur des programmes qui sont dans le domaine de l'innovation, de l'enseignement supérieur, de la recherche, du transfert de technologie, et 35 milliards qui ont été distribués à des lauréats, les meilleurs projets dans le domaine, avec deux mots-clés qui étaient le mot d'excellence et le mot d'efficience et l'impact économique. Donc, des grands projets, et derrière tous ces grands projets qu'on a vus, que ce soit sur la partie amont ou sur la partie transfert de technologie vers le monde industriel, eh bien, à chaque fois, il y avait des hommes qui portaient ces projets, enfin, des hommes et des femmes qui portaient ces projets, et je veux dire que c'est là qu'il y a eu souvent des facteurs de différenciation sur la dimension efficacité, efficience, impact économique. Donc, aujourd'hui, on a, avec cette initiative qui a été prise par l'AEF, eh bien, on est en plein dans les travaux pratiques, quelque part, de cette approche. Et on est aussi sur le pari pour l'avenir, parce que les investissements d'avenir, c'est des projets qui se veulent impactants à 5 ou 10 ans. Et puis là, on a eu une brochette de docteurs entrepreneurs qui vont préparer l'avenir, justement, et renouveler les forces vives de l'entrepreneuriat demain. Alors ça, c'est le premier volet. C'était les 35 milliards qui ont déjà été engagés. Et puis on a aussi le gouvernement qui a de nouveau engagé 12 milliards dans le programme des investissements d'avenir. Et sur ces 12 milliards, il y a une action spécifique qui a été précisée pour stimuler tout le volet culture de l'entrepreneuriat. Donc on va avoir sur ces 12 milliards supplémentaires une enveloppe certes modeste au point de vue financier puisque c'est 20 millions d'euros, mais c'est quand même extrêmement important à l'échelle de ce que l'on vise, 20 millions d'euros pour favoriser la culture de l'entrepreneuriat à la fois dans le monde universitaire, donc au niveau des docteurs et même un peu avant, dans tout le cycle universitaire. Et puis également, on va financer des initiatives au niveau du scolaire. Et donc, dès le plus jeune âge, sensibiliser les jeunes à tout ce qui relève de l'entrepreneuriat avec, voilà, on a vu des systèmes sur apprendre en jouant presque, eh bien, il y aura un peu ce système-là qui sera mis en place pour stimuler dès le plus jeune âge tout ce qui est culture de l'entrepreneuriat. Donc voilà, donc c'est pour ça que le CGI était extrêmement intéressé à participer à cette initiative de l'AEF.
Encore merci. Et il y aura un petit bout de l'enveloppe qui pourra être réservé pour faire des dotations. Ce sera l'année prochaine, malheureusement, ce ne sera pas cette année.
Le financement se fera effectivement, les fonds seront versés aux lauréats à partir de 2015. Mais ce que l'on mesure, c'est que 20 millions d'euros, comme je le disais, c'est beaucoup d'argent, mais on est sur un impact qui se veut à la fois culturel et grand public, qui touche l'ensemble du scolaire et de l'enseignement supérieur. Donc on aura besoin de leviers pour amplifier cette démarche. Et on pense véritablement qu'il faudra jouer avec les médias, avec la presse, pour pouvoir diffuser largement cette culture d'entrepreneuriat. Donc effectivement, je pense qu'il y aura discussion à avoir avec à la fois les lauréats et puis les gens qui sont capables de donner de l'amplification à cette dynamique.
AEF est une très très forte caisse de résonance dans tous les milieux professionnels. Sur ce concours, nous avons eu l'appui également du magazine La Recherche, qui a une diffusion professionnelle, mais également plus grand public. Et effectivement, si le CGI nous aide l'année prochaine à fournir une dotation à nos lauréats, nous assurons au CGI d'assurer un rayonnement tout à fait très très important dans les médias du prix du docteur entrepreneur. Bernard Scherrer, la recherche privée, pourquoi vous êtes-vous associé à notre initiative ?
Ben, EDF, c'est 160 000 personnes en tant que groupe, mais c'est 2000 personnes qui travaillent à la R&D d'EDF. Et sur ces 2000 personnes, on a quand même 150 thésards et 370 docteurs. Il doit y avoir 200 chercheurs chez nous qui font de l'enseignement. Donc voilà, donc déjà, on est chez nous, là. En tant que membre de la R&D, là, je me sens à la maison, premièrement. Donc d'une part, c'est ça. Et puis, EDF s'intéresse évidemment à l'innovation. On communique beaucoup en ce moment, mais au-delà de la communication, c'est un vrai élément stratégique pour EDF dans un domaine qui change très vite, qui s'appelle l'énergie. Et donc, on s'intéresse aussi à l'entrepreneuriat. À la R&D, on y a une équipe de créer spécialement pour créer des liens entre les start-up et les métiers du groupe et la R&D, avec un recrutement de start-up qui est mondial. On a fait cette année 25 démonstrations, par exemple, entre start-up et métier. Ce qui est pas facile, hein, de convaincre un métier d'une entreprise très industrielle d'aller tester quelque chose qui est encore pas complètement commercial ou etc. Donc c'est et on développe la culture, on essaye de développer la culture entrepreneuriale et business entre guillemets, quoi, pour parler français, au sein de la R&D. Et donc là, on est vraiment très content. Quand on voit des docteurs comme ça et des ingénieurs, des jeunes chercheurs qui font des choses comme ça et puis qui réfléchissent à vraiment qu'est-ce que ce travail qui a une grande valeur scientifique peut changer dans la vie de tous les jours, on est impressionné, quoi. Voilà, donc c'est bien. Voilà. On est content. Il y a de l'avenir et la relève est là.
Merci beaucoup. Alors, que va se passer dans quelques minutes? L'équipe AEF va être prête pour que nous puissions annoncer officiellement les lauréats du premier prix 2014. Alors, à notre petit niveau, au niveau d'AEF, nous allons on va quand même vous offrir une petite dotation, c'est-à-dire que nous allons vous offrir un an de gratuité à l'abonnement de notre fil recherche. Comme je vous ai dit, il y a un fort rayonnement dans tout le milieu de la recherche professionnelle, donc je pense que ça va vous aider. Nous allons offrir d'ailleurs cet abonnement aux 10 finalistes. Pas qu'aux 3 lauréats, parce que je pense que de toute façon ces 10 dossiers sont des dossiers absolument formidables, comme vient de le dire Bernard. Et nous avons voulu aussi aller plus loin en attendant le CGI l'année prochaine. Nous allons pouvoir aux lauréats vous accorder un parrainage, un double parrainage. D'une part, le MEDEF est très très intéressé par notre initiative. Donc, dans la région dans laquelle vous habitez, le MEDEF va chercher un entrepreneur qui a déjà pignon sur rue, si je puis dire, qui va pouvoir vous aider du point de vue de l'entrepreneuriat. Et puis, vous allez dans notre jury également. Nous avons également un club des patrons R&D d'entreprises. Un certain nombre d'entre eux sont tout à fait intéressés pour parrainer nos lauréats, évidemment, dans leur secteur d'activité. Donc ça, on ne peut pas vous donner la réponse maintenant, ni par rapport au MEDEF, évidemment, puisque nous ne connaissions pas les lauréats, ni par rapport à notre club et aux patrons de R&D qui s'associent à cette initiative. Mais nous vous en informons. Formeront très 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 rapidement. Voilà ce que nous vous offrons. Et puis bien sûr, nous allons relayer au maximum les résultats de ce concours. Est-ce que mes collègues, dans 40 secondes, nous avons la présidente du jury qui est très très concentrée avec l'équipe d'AEF qui ne veut pas se tromper dans les bâtons et dans les choix des trois lauréats. Donc je vous rappelle. Le prix des professionnels, 3 lauréats, et le prix du public, un seul. Alors peut-être qu'en définitive, nous aurons 4 lauréats, avec si le prix du public est différent de celui du jury des professionnels. Je donne la parole à la présidente du jury.
Bonjour à tous. C'était vraiment un plaisir de vous écouter ce matin, de voir, d'incarner les projets sur lesquels nous avions planché la semaine dernière. Merci pour cette belle organisation. Merci à Fatima qui a été vraiment une cheville ouvrière de premier ordre. J'ai le plaisir et je remercie beaucoup Madame Deru de présider ce jury et de donner le résultat. Ça a été très serré sur certains projets. On sent qu'il y a des vraies pépites pour faire un clin d'œil à un autre projet phare qui est présenté aussi sur les rues. Donc le premier prix, Xavier Duporté. Sur le projet Phage X. Deuxième projet à l'honneur, le projet Numalis. Et le troisième projet mis à l'honneur, le projet Spread. Et puis un grand bravo à tous les candidats. Je crois que au nom du jury, je peux me permettre de vous féliciter tous. Il y a vraiment eu un vrai engagement. Vous avez été vous avez joué le jeu. Et je crois qu'il y a des beaux projets qui émergeront des 10 propositions qui nous ont été présentées aujourd'hui.
Merci. Bien, beaucoup. Et j'annonce le prix du public, Xavier Duporté, Phage X.
Bravo.
J'invite nos trois lauréats à monter sur scène. On va nous descendre. Je pense que Laurent Cotte, maintenant, va vous... Vous êtes un peu plus détendu, va vous poser quelques questions et puis vous allez également vous exprimer avant que Isabelle Tissaint-Jean puisse vous remettre officiellement vos prix.
Merci. Donc, d'abord, bravo à tous les lauréats. Je pense qu'une des choses qui est évidente, vous ne le savez pas, mais c'est que tous ont beaucoup progressé en une semaine dans la présentation. Certains avaient fait des bonnes présentations, mais tout le monde est monté vers le haut, et ça, c'est un point extrêmement positif, dont je félicite Christophe Lecante, qui a contribué au coaching à cette occasion. Donc ça, c'était bien. Et puis maintenant, plus sérieusement, peut-être venir, puisqu'on sort des 3 minutes, peut-être préciser pour chacun d'entre vous l'enjeu et le point vraiment dur de son travail, peut-être refaire un peu de science, puisqu'après tout vous êtes docteur, donc c'est ou futur docteur, donc ça peut être intéressant pour tout le monde, de dire quel est le verrou technologique qu'il faut faire sauter. Alors toujours pareil, en une minute si c'est possible, de façon à expliquer un peu la magie de la technologie et de nouveau de remettre la technologie, non pas devant, mais de la montrer, de soulever un peu le capot du moteur et de dire ce qu'il y a dedans. Xavier.
Alors pour la technologie, ce qui a été les deux verrous qu'on a dû faire sauter pour développer surtout notre premier produit, ça a été
Premièrement, on utilise des phages qui sont les virus des bactéries. Et on sait que les phagothérapies, la thérapie par les phages, n'est pas aujourd'hui approuvée, et parce que les phages se répliquent dans les bactéries quand ils infectent les bactéries, et donc on ne peut pas contrôler leur réplication sur notre corps. Et donc nous, on a dû ingénérer ces phages pour les rendre non réplicatifs et pour arriver à les targeter sur, enfin à les cibler sur vraiment des espèces très précises. Et la deuxième étape très intéressante, c'est que le mécanisme pour scanner l'ADN et donc découper l'ADN lorsqu'il trouve un gène de résistance, enfin la séquence qu'on cible, au départ, c'est une résistance des bactéries contre les phages. Donc c'est le système immunitaire des bactéries. Et là, on a dû le tourner au final contre les bactéries elles-mêmes. Donc on a dû faire du reverse engineering et du coup utiliser ce système immunitaire contre les bactéries. Donc ça a été les...
D'accord. Alors, nous, le grand enjeu, c'est écrire un programme. On peut en écrire un, c'est facile. L'écrire de la bonne manière, c'est très compliqué. Et il y a une infinité, quasiment, de manières possibles d'écrire un programme, quoi. Donc, on peut pas toutes les tester, évidemment. Il faut réussir à en déterminer une qu'on peut atteindre en temps raisonnable et qui soit suffisamment efficace. Alors, il n'y a pas de recette, malheureusement, miracle. On est obligé de passer par des circonvolutions techniques assez compliquées. Je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais en gros, ça s'apparente à ça. C'est, vous avez une image avec des tas de pixels. Chaque pixel, ils sont peut-être rouges ou ils sont bleus, suivant si votre formulation du programme elle est bonne ou pas. Si vous regardez l'image trop près, vous voyez que les grains et vous galérez à trouver les bons pixels. Si vous la regardez de très très loin, vous discernez rien du tout. Et le but du jeu, c'est réussir à faire un espèce de dézoom pour voir l'image à la bonne distance, pour réussir à trouver quand même facilement où sont les bons pixels. Et ça, c'est en gros la théorie que j'ai mis en œuvre durant mon travail de thèse avec mon équipe de recherche. Voilà.
Merci. Alors moi, je suis docteur en théorie des jeux pour les télécommunications. Donc il faut comprendre que dans Spread, dont le concept peut paraître très simple, il y a plusieurs niveaux d'innovation technologique. Le premier niveau, c'est déjà comment faire en sorte que le bouche à oreille passe dans les moyens de communication modernes. Parce que finalement, pour imposer le bouche à oreille, il y a une contrainte technique. Il faut imposer que les communications se fassent forcément en proximité physique. Donc avec NFC, c'est facile, mais par exemple avec les codes QR, c'est un peu plus compliqué, parce qu'il faut éviter que des gens puissent simplement prendre une photo du code QR, le mettre en ligne et faire une diffusion à des centaines de milliers de personnes facilement. Ça, c'est des choses sur lesquelles on a travaillé. Deuxièmement, il faut aussi comprendre que cette contrainte de proximité physique, elle va finalement contre la facilité de diffusion d'un contenu dans le réseau. Donc la deuxième étape, et moi je suis un docteur en théorie des jeux et c'est là que ça devient important, c'est de créer des mécanismes d'incitation à la diffusion et notamment pouvoir modéliser dans notre réseau, une fois qu'on a le graphe de nos utilisateurs, comment un contenu peut se propager en fonction des mécanismes d'incitation qui sont mis en place pour un contenu donné. Merci.
Une dernière question, puisque après il faut savoir arrêter toutes les réunions, même les plus sympathiques. À quel moment, je veux dire, le titre c'est docteur et entrepreneur. Alors j'ai envie de dire, est-ce que c'est un problème d'œuf et de poule ? C'est d'abord docteur puis entrepreneur, d'abord entrepreneur puis docteur. Comment s'est fait quelque part le déclic, si jamais il y a eu un déclic ? Alors, pour chacun d'entre vous, racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui vous a décidé à partir dans l'aventure.
Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être chercheur. Mon premier stage à 12 ans, et j'ai toujours voulu être chercheur. Et au final, après avoir fait de la recherche un peu aux US, en Nouvelle-Zélande, en France, avoir fait plusieurs labos, je me suis rendu compte que c'était bien d'écrire des papiers, mais que ça restait dans un cercle très académique, et qu'au final, c'était aussi la course à la publication, sans vraiment apporter quelque chose en dehors du labo. Et du coup, le déclic, ça a été de dire que ça pourrait être encore plus efficace en dehors du labo de transformer une technologie. C'est seulement une invention, en fait, ne peut pas avoir un véritable impact. Il faut transformer l'invention en une technologie. Et après, le plus important, c'est que cette technologie puisse répondre à un problème. Et donc, c'était le fait d'avoir un impact positif sur la société, de pouvoir changer le monde. Ça a été un petit peu le déclic.
Alors, l'œuf et la poule, oui. Moi, je veux dire, j'ai fait un doctorat parce que j'ai eu une opportunité que moi, j'ai estimé en or. C'était à travers une fondation de recherche qui s'appelle la FNRAE, d'avoir accès à un sujet qui est à la fois très théorique, mais qui est aussi avec des applications très concrètes, puisqu'il y avait derrière déjà la société Airbus qui voulaient ce résultat et qui étaient prêts à travailler avec nous. Du coup, durant le doctorat, j'ai toujours gardé cette lunette vers l'industrie, pas juste vers la recherche. Et à l'issue du doctorat, où justement les gens d'Airbus étaient dans mon jury, on s'était un peu rendu compte que pour que le prototype qu'on avait développé, qu'il y avait il y avait une belle caisse de résonance dans Airbus pour ce prototype, pour que vraiment il passe le pas, il fallait voir peut-être plus grand, être plus ambitieux que juste imaginer, il y aura peut-être une deuxième thèse plus tard pour le développer, il y a un nouvel étudiant qui se mettra dessus. Et moi j'avoue, c'est un peu mon bébé, hein, ce travail et ce proto. Et du coup, en regardant autour de moi, je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité avec le laboratoire, mais aussi avec des gens de l'industrie que je connais qui m'ont rejoint sur ce projet, de tenter l'aventure et de franchir le pas. Donc ça s'est joué un peu à l'issue de la soutenance de thèse, quand on s'est demandé, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce travail accompli pour pas que ça soit juste un document dans une étagère qui prend la poussière, quoi.
Merci. Alors pour moi, le doctorat a été un peu une caisse de résonance pour ma vocation entrepreneuriale, parce que j'ai toujours été plein d'idées, mais avant de commencer la thèse, un peu naïvement, et maintenant j'ai un peu honte de l'admettre, j'étais un peu complexé, par exemple, vis-à-vis des innovations qu'on voit sortir des États-Unis. Notamment, moi, je travaille dans les réseaux sociaux, et on a l'impression que tout ce qui sort de nouveau dans les réseaux sociaux, ça doit venir de la Silicon Valley. Et je me disais, moi, petit français, non, je peux pas. Et en fait, la thèse m'a fait évoluer dans un écosystème où j'étais justement tout le temps au contact des étudiants nord-américains et j'ai pu bien juger mon niveau par rapport à eux. Je me suis rendu compte qu'on n'était pas, on était clairement aussi bien équipés qu'eux pour faire ce genre de choses. Donc moi, la thèse m'a vraiment donné une confiance et une vision globale sur ce que je pouvais faire. Et ça a été finalement ce tremplin qui m'a permis d'avoir confiance et légitimité pour lancer ce projet.
Merci beaucoup. Je pense que les trois histoires brèves, mais à la fois semblables et différentes, je pense que c'est vraiment une bonne publicité. Je crois qu'il faudrait juste faire du copier-coller pour l'édition de l'année prochaine et expliquer pourquoi on peut être docteur et entrepreneur. Et je crois que c'est en effet une très bonne idée. C'est à la fois une valorisation de la personne, une valorisation des travaux, et c'est probablement un des moyens les plus efficaces de transformer de la recherche en technologie, puis, comme l'a dit Xavier tout à l'heure, en applications qui trouvent leur marché. Donc encore une fois, bravo, et je passe la parole à Isabelle Tisse, qui est chargée de faire la conclusion.
Alors, ça va être compliqué parce que j'ai pas pu assister, comme ça a été dit tout à l'heure, à l'intégralité des présentations. Et vraiment, je le regrette. Mais ce que je vois là est vraiment absolument enthousiasmant. Et je suis très heureuse d'entendre ce mot de confiance, quoi. On a en France, mais vraiment quelque chose d'exceptionnel avec la recherche française. C'est tout à fait exceptionnel dans beaucoup de domaines. Et on n'arrive pas à en tirer tous les bénéfices collectifs qu'on pourrait en tirer. On a une difficulté et qui vient en très grande partie aussi d'un manque de confiance qu'on peut avoir les uns les autres. C'est pour ça que ce mot de confiance que vous venez de prononcer en disant je me suis rendu compte que oui, je pouvais y arriver. C'est quelque chose. Il faut absolument que toute la nouvelle génération, et en particulier la génération de doctorants et docteurs, se rendent compte du potentiel qu'ils ont, se rendent compte que vous êtes des gens absolument formidables, formés dans des conditions quand même de... Évidemment, il y a encore des progrès à faire, évidemment, rien n'est parfait, on peut toujours faire mieux, mais en même temps, il y a des conditions qui sont... Il y a une tradition française de la recherche française qui est assez exceptionnelle, assez exceptionnelle. Et la difficulté qu'on a, c'est maintenant comment on arrive à valoriser cette recherche et à faire en sorte qu'elle se valorise sur toutes ses déclinaisons. Économique, mais pas seulement, mais aussi économique, parce que c'est de l'emploi. Et vos trajectoires, là, les exemples que vous êtes en train de suivre et de donner, j'ai qu'un seul petit regret, c'est que ces trois hommes, mais ils sont formidables tous les trois, mais c'est vrai que si on avait pu avoir une femme, parce qu'il y a aussi une histoire d'exemplarité à donner, parce qu'il y a aussi, à la fois pour l'innovation et pour la direction d'entreprise, Il faut que les femmes, elles ont, il y a une double difficulté, hein, c'est vos difficultés à vous, et en plus, l'image que les femmes ne peuvent pas y arriver. C'est le seul petit regret que j'ai, mais ça sera pour l'année prochaine. Cet exemple donné, hein, qui montre que la valorisation économique est là, que ce que vous disiez tout à l'heure sur, en fait, on croyait que il y avait que les Américains qui pouvaient le faire. C'est pas vrai, quoi. C'est pas vrai. On a un potentiel en France qui est incroyable, quoi. Incroyable. Mais il faut que on vous accompagne. Il faut qu'on tende la main à cette nouvelle génération. C'est d'autant plus important qu'en ce moment, je veux pas revenir sur le débat d'hier sur le doctorat et l'insertion des docteurs qu'on a eu hier matin. Mais la génération, là, des doctorants ou de ceux qui potentiellement peuvent être doctorants ou docteurs, vous êtes quand même très pris entre un emploi public qui est difficile aujourd'hui avec des conditions d'entrée qui sont difficiles, hein. L'âge d'entrée qui a reculé, les post-docs qu'on vous demande aujourd'hui et qui sont pas seulement des post-docs formateurs, mais qui sont aussi des post-docs de file d'attente, ce qui est pas souhaitable, hein, qui fait que beaucoup d'entre vous décident de partir à l'international, ce qui est très bien pour faire rayonner la France, mais dommage quand c'est par défaut. Donc ce mur-là, et puis le mur de l'entreprise qui arrive pas à vous tendre les bras, qui arrive pas à comprendre que vous êtes des gens extrêmement bien formés, que la formation par la recherche à la recherche, c'est une formation excellente qui vous donne des compétences dans bien d'autres domaines que simplement la trajectoire de recherche, hein, et vous en faites la preuve, vous êtes capable de monter des entreprises, vous êtes capable de vous insérer dans le secteur public, hein, et donc il faut travailler ça aussi, hein, y compris dans les collectivités territoriales, hein, il faut qu'on travaille là-dessus. Donc vous êtes capable de ça, et puis vous êtes capable de monter votre propre entreprise, et ça aussi c'est une... C'est un espoir incroyable pour la génération là des doctorants et des docteurs. C'est vous avez la ressource en vous-même et le potentiel pour le faire. Et je crois que c'est tout à fait essentiel. Ceux qui sont franciliens, j'ai cru comprendre d'après les profils que j'ai regardés récemment, que c'est pas le cas de tous, mais c'est le cas de certains d'entre vous. Ceux qui sont franciliens, la région Île-de-France a mis en place un certain nombre de dispositifs qui vont vous permettre d'être accompagné, je pense en particulier au CFI, le Centre francilien de l'innovation. Hein, je vois que vous hochez de la tête, vous les connaissez déjà. Ils vous accompagneront. Hein, on essaiera d'être à vos côtés pour la réussite de l'opération. Il y avait dans la salle tout à l'heure, je ne sais pas si elle est partie, oui, il y a Françoise Chotard qui lève la main, qui s'occupe de notre bureau Europe, mais ça peut aussi marcher pour les autres régions. Elle fait un travail par ailleurs au niveau des réseaux européens, donc vous pouvez aussi aller discuter avec elle. Elle peut vous aider à ouvrir les portes de l'Europe, hein, pour la suite de l'histoire, c'est tout à fait essentiel. Il faut à la fois avoir... pas peur de ses ambitions, mais au sens noble du terme, hein. Voilà, pas avoir peur de ses ambitions, vous avez le potentiel, et pas avoir peur de penser à l'échelon international, et en particulier européen. On a une histoire européenne à construire, je pense que c'est de notre responsabilité, c'est votre génération qui la construira, nous on sera à vos côtés pour essayer de le faire et pour vous encourager, et je pense que l'exemple que vous donnez à tous mérite vraiment d'être valorisé, c'est vraiment quelque chose d'important, donc je vous souhaite toute la réussite possible, d'après ce que je vois, de ce que j'ai, les quelques mots que j'ai entendus, j'ai peu de doutes. Et je vous félicite.